Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne. Heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info, même si l'actualité dont je vais vous parler n'est pas très réjouissante. Le cyclone Freddy, qui a ravagé deux fois l'Afrique australe ces derniers jours, se caractérise par son une exceptionnelle longévité. Il est encore trop tôt pour le lier spécifiquement au changement climatique. Mais les scientifiques pensent bel et bien que ce changement climatique tend à rendre les cyclones plus intenses. Freddy est né dans le sud-est de l'océan Indien, du côté de l'archipel indonésien. Il a été nommé Freddy le 6 février par le service météorologique australien. Il a ensuite voyagé plus de 8000 km en traversant tout l'océan Indien d'est en ouest, affectant l'île Maurice et l'île de la Réunion au cours de son long chemin vers Madagascar, puis vers le Mozambique. Il a alors effectué une boucle pour venir frapper ces deux derniers pays, ainsi que le Malawi, pays qui semble avoir payé le plus lourd tribut. L'Organisation météorologique mondiale estime qu'il est en bonne voie pour battre le record de longévité, aujourd'hui détenu par le typhon John, qui avait duré 31 jours en 1994. Freddy avait vendredi 34 jours d'activité au compteur, selon l'OMM. Météo France qualifie Freddy de système tropical particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près de son centre. Le cyclone tropical Freddy est exceptionnel essentiellement parce qu'il dure plus longtemps que tout autre répertorié jusqu'à présent, a souligné Melissa Lazembi, professeure en changement climatique à l'université du Sussex. Enfin, il a, selon la NASA, battu le record dans l'hémisphère sud pour un indicateur baptisé énergie cumulative des cyclones tropicaux, connu sous son acronyme anglais ACE. Cet indicateur mesure l'énergie totale des vents associés au cyclone sur sa durée de vie. Le Malawi, nous l'avons vu, est donc le pays le plus touché par Freddy. Le président du pays, Lazarus Chakwera, qui était en visite officielle au Qatar, est rentré mardi dans son pays. « Nous sommes arrivés dans une nation dévastée », a-t-il déclaré en débarquant à l'aéroport de Lilongwe, tout en louant les efforts des volontaires engagés dans les opérations de secours. Depuis dimanche, des pluies diluviennes se sont abattues sur le pays, provoquant inondations et glissements de terrain. Le sud est la région la plus touchée. Plusieurs districts sont affectés, tous dans le sud. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Ce cyclone hors norme a fait plus de 200 victimes, selon un bilan provisoire des autorités. Ansanje, qui est la ville et le district le plus méridional du pays, une vingtaine de camps d'urgence ont été installés pour accueillir les personnes déplacées. Leurs besoins sont critiques. Interviewé par Radio France Internationale, Patrick Sipouni, responsable de la gestion des risques de catastrophe pour le district de Nsanje, a expliqué, je le cite, « De nombreuses personnes continuent d'affluer dans ces camps. Parmi eux, des enfants, des femmes, des hommes, leurs communautés ont été inondées et tous leurs biens domestiques ont été emportés. Ils ont donc besoin d'une aide en termes d'articles ménagers, de nourriture, de kits d'hygiène et même de vêtements. Nous avons besoin de suffisamment de tentes à mettre à disposition des personnes déplacées, a-t-il poursuivi. Concernant les opérations de secours, nous avons réussi à sauver un grand nombre de personnes et les recherches se poursuivent. Nous espérons trouver d'autres survivants. Cependant, certaines données montrent que le cyclone Freddy continue d'avoir des effets dévastateurs et la pluie continue de tomber. Près de 20 000 Malaviens ont perdu leur toit dans la seule région de Blantyre, la plus grande ville du pays, au sud du pays. L'hôpital Queen Elizabeth est débordé par l'afflux de blessés, a alerté dans un communiqué Médecins sans frontières, présent dans cet hôpital. Le Queen Elizabeth Central Hospital a reçu à lui seul 220 personnes, dont 42 adultes et 43 enfants déclarés morts à leur arrivée. L'ONG craint un bond des cas de choléra dans le pays, qui luttait déjà contre l'épidémie de cette maladie infectieuse, la plus meurtrière qu'il ait connue. Près de 59 000 personnes ont été touchées dans le pays et près de 20 000 déplacés hébergés en urgence dans des écoles ou des églises. Dans le township de Chilobwe, proche de Blantyre, des habitants sont restés abasourdis devant les restes des maisons emportées par les coulées de boue. Le vent est retombé, mais la pluie persiste. Les constructions faites de briques et de boue n'ont pas résisté. Nous sommes impuissants et personne n'est là pour nous aider, a lancé John Whitman, 80 ans, trempé malgré un imperméable et un chapeau en laine, qui cherche son gendre, disparu dans l'effondrement de sa maison emportée par la soudaine montée des eaux. Les habitants disent être convaincus que des dizaines de corps sont encore là, ensevelis sous la boue. Mais il n'y a pas un sauveteur en vue dans le secteur. Ailleurs, des excavateurs ont été déployés. La veille, familles et secouristes ont fouillé la terre à main nue sous une pluie battante. À quelques kilomètres de là, à Chinquankunda, Steve Panganani Matera montre un immense champ de boue ruisselant. Il y avait plein de maisons ici, toutes parties, dit-il à l'AFP, abritées sous un fragile parapluie. Sous un ciel lourd, certains tentent de franchir les eaux marrons qui déferlent depuis le haut des collines sur des ponts improvisés faits de planches jetées entre des éboulis. Le dernier bilan fait état de 225 morts, selon des rapports provisoires reçus par le Department of Disaster Management Affairs, le département de gestion des affaires de désastre. Ces rapports indiquent aussi que le cyclone, caractérisé par des inondations, des vents violents et des glissements de terrain, a déplacé plus de 88 000 personnes et qu'il a fait 707 blessés et que le nombre de personnes disparues, bilan malheureusement provisoire, s'élève à 41 personnes. Pour héberger les personnes déplacées, 165 camps ont été installés. Les opérations de secours et de recherche sont conduites par l'armée du pays, l'armée malavienne, par la police, par le département, comment pourrais-je traduire ça, le département de la marine, même si le terme est impropre puisque le pays est enclavé. C'est le département qui gère les navires fluviaux et lacustres, par la société de la Croix-Rouge du Malawi et par les communautés elles-mêmes. Cette terrible catastrophe me touche particulièrement, car j'ai passé un total de 6 années au Malawi et j'y compte encore de nombreux amis et connaissances. Durant les années 2007-2009, je faisais partie du Lions Club de Lilongwe, la capitale du pays. J'ai donc contacté l'un de mes amis du club afin d'avoir les dernières nouvelles. Cet ami, c'est Ken Banda, le patron francophone et francophile de l'agence de voyage. Bon voyage, l'a bien nommé. Voici en résumé ce qu'il a pu me dire il y a quelques instants. En milieu de journée, ce mercredi, un total de 225 corps ont pu être récupérés des maisons écroulées. Des efforts ont été entrepris pour aller au secours de rescapés, réfugiés dans des arbres. Plusieurs camps ont été mis en place dans des écoles et des églises, où des secours d'urgence sont organisés. Cela inclut de la nourriture, des vêtements, du matériel sanitaire. Il y a un grand besoin de tentes afin de les installer dans les différents secteurs de la région sud. Tous les districts de cette région ont été affectés, mais le plus durement touché est Blantyre. Des familles sont évacuées vers des zones plus élevées dans les districts de Palombe, Zomba, Nsanje, Chikwawa et Mulanje. Plus de 500 000 personnes ont été affectées dans toutes les régions, dans tous les districts de la région sud. Les Lions Club du pays se sont mobilisés pour récolter et envoyer des vêtements et d'autres produits de première nécessité aux déplacés. En outre, le Lions Club International a déjà envoyé 10 000 dollars pour faire face à l'aide, pour financer l'aide d'urgence. De nombreuses organisations locales font des dons en nature et en liquide. Bon, je suis bien conscient que nombre de mes auditeurs auraient des difficultés à situer le Malawi sur une carte, tant ce pays est peu connu en Europe, en dehors peut-être de l'ancienne puissance coloniale, le Royaume-Uni. Cependant, je sais que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ces ondes. Je vais quand même tenter de dresser un rapide portrait de ce pays qui se trouve en Afrique du Sud-Est, au sud de la grande vallée du Rift. Un lac immense, le lac Malawi, s'y étale sur presque toute sa longueur. Le Malawi est un pays enclavé, divisé en trois régions. La région sud, donc la plus touchée par Freddy, la région sud dessine une étrange pointe s'enfonçant au milieu du Mozambique, le pays voisin. Les régions centre et nord sont quant à elles coincées entre la Zambie à l'ouest et le lac Malawi à l'est. Au nord, le pays a une courte frontière terrestre avec la Tanzanie. La pointe sud du lac est entièrement malawienne. La côte centre-est appartient au Mozambique, tandis que la côte nord-est est tanzanienne. La superficie du Malawi est de 118 000 km², dont plus d'un quart est aquatique. La plus grande partie du lac, bien sûr, mais aussi par ordre d'importance, les lacs Chirwa, Malombe et Chuta. Du nord au sud, le pays s'étire sur environ 900 km. D'ouest en est, il est très étroit, 210 km dans sa plus grande largeur, au centre, mais seulement 10 km dans le district de Nsanje, à l'extrême sud. Je connais bien ce district qui est le plus bas en altitude du pays et qui est complètement enclavé sur trois côtés, en tout cas par le Mozambique, et qui a été fort touché par les inondations en cours. Le territoire est presque totalement constitué de hauts plateaux, d'une altitude moyenne supérieure à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le haut plateau central est parsemé d'inselbergs, des îles montagnes, abruptes formations rocheuses isolées. Au nord et au sud, des montagnes élevées, souvent des plateaux d'altitude, dominent le paysage. Les plateaux de Nika et de Vipia au nord, le plateau de Zomba au sud et surtout l'imposant massif de Mulanje au sud-est, dont le pic Sapitwa, avec ses 3003 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le point culminant du Malawi. De ce sommet, par temps clair, on peut apercevoir l'océan Indien, distant de près de 300 km. Le lac Malawi, lui, n'est qu'à 474 mètres d'altitude. La Shire, principal cours d'eau du pays, véritable fleuve, constitue le seul écoulement du lac Malawi. Sa vallée est donc moins élevée que le lac. et la base Chirée, dans l'extrême sud du pays, est à moins de 100 mètres d'altitude. Elle est l'un des plus importants affluents du fleuve Zambèze qui finit par se déverser dans l'océan Indien. Le confluent de la Chirée et du grand fleuve venu des hauts plateaux d'Angola est situé au Mozambique, non loin de la frontière malavienne, et on peut d'ailleurs l'apercevoir depuis Nsanje, depuis les collines de Nsanje, à l'extrême sud du pays. Le lac a une superficie de 30 800 km², ce qui en fait le troisième lac d'Afrique, après le lac Victoria et le lac Tanganyika. À titre de comparaison, le lac Léman n'en a que 582 de km². Le lac Malawi, avec ses 704 mètres, est le deuxième lac d'Afrique pour la profondeur. Généralement calme, il peut devenir dangereux lors de brusques tempêtes ou durant les orages. Les plages de la côte ouest peuvent être assaillies par de grosses vagues poussées par le Mvuma, le vent d'est. L'altitude au Malawi, comme ailleurs, a un impact direct sur le climat. L'extrême sud du pays est à moins d'une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que le point culminant, nous l'avons vu, dépasse les 3000 mètres. Cette diversité d'altitude sur un territoire assez exigu apporte une variété de climats. Certes, il ne neige jamais au Malawi, mais durant la saison froide, de juin à août, il peut geler sur les plateaux du Mulanje et de Nika. Et pendant la saison chaude, de septembre à novembre, il fait souvent épouvantablement chaud et humide dans les régions marécageuses de la basse Chirée et très chaud au bord du lac. Cependant, le climat est relativement tempéré sur les hauts plateaux. Il n'y fait jamais ni trop chaud ni trop froid, même si les températures descendent fréquemment bien au-dessous de 10 degrés la nuit et au lever du jour en juin-juillet. Toutes les villas de l'époque coloniale sont d'ailleurs équipées de cheminées qui sont loin d'être uniquement décoratives. La quasi-totalité du pays reçoit des pluies très abondantes de novembre à avril. Elles prennent d'ailleurs souvent un aspect torrentiel, les rivières et autres ruisseaux dévalant alors avec une rage terrifiante des escarpements abrupts pour rejoindre le lac ou la vallée de la Chirée. C'est ce qui est en train de se passer, mais avec une force décuplée en ce moment avec Freddy. De mai à octobre, il ne pleut généralement pas. Une sorte de bruine froide peut parfois s'installer sur les hauts plateaux pendant plusieurs jours. Le pays, très verdoyant durant la saison pluvieuse, se transforme en une étendue sèche et poussiéreuse. Le contraste entre les deux saisons est saisissant. À partir de septembre, les températures remontent, l'humidité revient peu à peu et la nature reverdit. C'est la saison des teintes vives. En septembre, Blanta et Lilongwe, les deux principales villes du pays, se parent d'une somptueuse couleur violette. Les splendides jacarandas en fleurs pleurent leurs pétales innombrables. Les rues de ces grandes villes sont quotidiennement recouvertes d'une fine couche de neige mauve. Les flamboyants ne sont pas en reste et ils offrent de magnifiques grappes rouges qui incendient leur vert feuillage. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis auditeurs, tant sur le Malawi d'une manière générale que sur la catastrophe qui est en train de le frapper. Je pense beaucoup, bien sûr, à ce pays ces jours-ci. Les images que j'ai pu voir sur diverses vidéos sont épouvantables, des torrents de boue qui déferlent avec une vitesse stupéfiante et qui emportent tout sur leur passage. Pour terminer, je vais quand même vous laisser avec peut-être une note plus réjouissante, en compagnie d'un chanteur que j'ai bien connu, Jeffrey Goma, qui était un chanteur albinos, qui est malheureusement décédé voici une dizaine d'années. Je vous laisse donc avec Jeffrey Goma en vous disant à la semaine prochaine.